Les locaux du bio.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des locaux du bio, notre rendez-vous en partenariat avec la Biocoop Le Grenier. Aujourd'hui, nous recevons Timothée Soulier, agent de développement au CDSA 05, le comité départemental de sport adapté des Hautes-Alpes, pour parler ensemble évidemment du sport adapté. Bonjour Timothée.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Camille Danel, chargée de communication de la Biocoop Le Grenier à Gap, va nous rejoindre. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Donc j'espère que Timothée, vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui on va parler de sport. Vous êtes venu au nom du comité départemental du sport adapté des Hautes-Alpes. L'an dernier, nous avions reçu Caroline Martz, directrice du CDSA 05. Cette année, c'est vous qui êtes dans notre studio. On pourra rappeler, présenter à nouveau ce que c'est que le CDSA 05 et ce que vous proposez. On pourra rappeler aussi exactement ce que c'est que le sport adapté. Il y a des différences à faire, vous nous éclairerez là-dessus. Et puis surtout, on pourra faire un point sur vos projets. Notamment, l'an dernier, Caroline nous avait parlé du projet Dragon des Écrins. Il y a du nouveau, on pourra passer un peu de temps sur ce sujet-là et prendre le temps aussi d'évoquer vos projets actuels et futurs. Et enfin, on pourra discuter en deux mots des JO d'hiver qui ont lieu actuellement et des Jeux Olympiques plus généralement. Alors Timothée, on commence donc ensemble. Comment est-ce que vous avez l'habitude de présenter le CDSA 05 pour nos auditrices et auditeurs qui auraient oublié?
Oui, je commence à connaître un petit peu le speech. C'est vrai que nous, on a tendance à rappeler la différence tout de suite entre sport adapté et handisport. Donc il faut savoir que le CDSA 05, il est rattaché à une fédération nationale, la Fédération française de sport adapté, qui gère le développement du sport pour les personnes en situation de handicap mental, psychique, et aussi pour depuis plus récemment, pour tout ce qui est troubles du spectre de l'autisme. À l'inverse du coup de handisport, où là on a la représentation un peu plus classique, plus connue, sur le handicap moteur et sensoriel. Donc on aime bien toujours commencer par là pour expliquer un peu nos spécificités, parce qu'effectivement on parle de handicap, mais c'est des publics qui sont quand même totalement différents.
C'est des publics et des besoins aussi, j'imagine, qui
tout
sont
à fait.
Différents.
Ouais. Tout à fait. Donc du coup, on a nos spécificités, ça n'empêche pas qu'on travaille beaucoup avec handisport, qu'on ait beaucoup de points communs et d'événements en commun, mais au quotidien, voilà, on a chacun notre public pour pouvoir les aider au mieux.
Et donc pour pouvoir adapter, c'est le mot justement.
Exactement, tout est dans le titre.
Les pratiques sportives, justement, j'y viens, comment est-ce qu'on adapte le sport? Puisque malgré tout, même si c'est des publics qui n'ont pas de handicap moteur, il y a beaucoup de diversité dans les publics. Comment est-ce qu'on adapte le sport à ces publics-là?
Ouais, c'est vrai que par rapport au handisport, où l'adaptation est tout de suite plus parlante, on va dire, avec tout ce qui est fauteuil, aide à la marche ou autre en fonction des disciplines. Au sport adapté, on n'a pas nécessairement de handicap moteur ou déficit motricité qui est forcément associé, ça peut arriver. Mais du coup, les adaptations vont plus se faire sur la gestion de la compréhension des consignes. Donc des consignes plus claires, des environnements, par exemple dans des gymnases, qui sont aussi plus accessibles, plus faciles à comprendre pour les sportifs. On l'a tous fait plus autour de l'environnement, autour du rythme, des séances, des entraînements, plus que vraiment sur les adaptations matérielles en elles-mêmes.
Est-ce qu'il y a aussi une adaptation en termes de but à atteindre auprès des publics que vous accompagnez?
Oui, alors il faut savoir qu'au sport adapté, on a un spectre d'autonomie et de handicap qui est extrêmement large. Donc du coup, on a des personnes qui s'engagent dans des compétitions à haut niveau. On a des champions en équipe de France de certaines disciplines, etc. Et de l'autre côté du spectre, entre guillemets, on a des personnes qui peuvent moins s'inscrire dans une discipline qui est codifiée, réglementée, etc. Et du coup, les attentes ne seront pas les mêmes en fonction de là où on se place. Donc pour certaines personnes, les attentes en termes de compétition peuvent être très élevées, tandis que pour d'autres, on est plus sur une recherche de plaisir et d'autonomie. Donc nous, en tant que professionnels, le but, c'est vraiment d'arriver, nous, à fixer nos attentes au plus proche de ce qui est possible pour ces sportifs, pour qu'à la fin, ce soit bénéfique pour chacun. Donc c'est très individualisé.
Et justement, au niveau des besoins et des attentes qui sont fixées, est-ce que c'est fixé uniquement par vous? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont exprimés aussi? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Ouais, tout à fait. Donc on travaille beaucoup avec des centres, avec des établissements médico-sociaux. Donc quand on intervient au sein de ces centres, on n'arrive pas comme ça de but en blanc pour proposer une séance. On a toujours des réunions, des préparations avec les équipes pour définir le groupe ensemble, l'activité, on la définit également ensemble, mais aussi les attentes et les objectifs qu'on a avec ce groupe. Donc c'est rarement un travail qui est fait tout seul. Et puis après, pour tout ce qui est plus sur l'aspect compétition, voilà, un peu comme on peut retrouver dans un club ordinaire, là, c'est en fonction de la progression de chacun, on participe à des compétitions et puis on voit la marge de progression qui nous reste. Et du coup, on adapte au quotidien, comme un entraîneur traditionnel.
On pourra reparler de l'aspect compétition à la fin de cette émission, c'est très intéressant en tout cas. Je reviens au public que vous accompagnez, vous avez parlé du fait que vous travaillez souvent avec des centres médico-sociaux, est-ce qu'il y a des publics qui vous viennent vous voir spontanément, qui vient au CDSA 05 ?
Ouais, donc alors par rapport aux centres médico-sociaux, là c'est plutôt les équipes évidemment qui viennent nous voir, les équipes de professionnels pour qu'on propose soit une activité, soit qu'on mette en lien avec des professionnels du sport pour qu'ils aient à terme des activités sportives régulières. Et ensuite, on travaille aussi avec des clubs. Donc ça peut être des clubs 100% sport adapté ou alors des clubs ordinaires qui accueillent du public en situation de handicap. Et là, on travaille avec eux pour que les personnes hors établissements médico-sociaux puissent pratiquer du sport comme tout un chacun, comme vous, comme moi, sur des créneaux du soir, le week-end, etc. Et ça, dans la discipline qu'ils le souhaitent, dans la mesure du possible évidemment, parce que on reste un territoire plus restreint avec des centres d'activité, je pense à Gap, Briançon, Embrun, etc., avec des activités qui sont quand même assez centrées sur certaines villes, agglomérations, donc on fait au mieux en tout cas.
Et pour parler de votre histoire, justement, vous parlez des territoires sur lesquels vous êtes inscrit, vous êtes ici à Gap notamment, depuis combien de temps est-ce que vous existez dans les Hautes-Alpes de manière générale et puis dans le bassin Gapençais évidemment?
Donc, le comité départemental sport adapté du 05, il a été créé en 1986, donc on fête nos 40 ans cette année, et la fédération française à l'échelle nationale, elle existe depuis les années 70, si je dis pas de bêtises. Elle existait sous d'autres formes avant, mais dans les années 70, donc ça reste quand même un CDSA pionnier, c'est pas le mot, mais ancien, oui, sur ce qui peut se faire à l'échelle nationale. Et voilà, ça a toujours été plutôt basé à Gap. Je sais qu'historiquement, il y avait aussi une antenne à Rosan, ce qui paraît étonnant parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est très peu présent sur ce territoire. Et voilà, donc après, on essaie de développer au maximum aussi sur le nord du département. Aujourd'hui, nos activités, c'est un gros axe de développement qu'on a. Et du coup, j'en profite pour remercier un peu les clubs et les partenaires qu'on a dans le Briançonnais qui nous donnent un grand coup de main pour ça.
Les locaux du bio. Alors pour parler un peu plus précisément de ce que vous faites au CDSA 05, donc on a compris un peu la globalité de ce que vous faites, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez aussi des projets phares tous les ans que vous menez avec vos adhérentes et adhérents. Et il y a eu par exemple, pour en nommer quelques-uns, il y a eu la psy-cyclette ou encore la traversée des Hautes-Alpes en mobilité douce qui s'appelle Ensemble avec nos différences, si je ne dis pas de bêtises. Et l'an dernier, le projet phare, c'était un projet qui s'appelle Dragon des écrins. Peut-être que je peux vous laisser le présenter, vous le ferez bien mieux que moi.
Ouais, je peux. Donc, c'est vrai que pour faire une petite rétrospective sur ces projets phares, c'est intéressant parce que c'est pas forcément le cas dans tous les CDSA. Alors, ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est qu'on a tous des fonctionnements différents dans chaque département. Et c'est vrai que dans le 05, on a la chance quand même d'avoir un territoire assez exceptionnel quand on est passionné de sport et surtout d'activités outdoor. Donc du coup, on est quand même, nous, à notre échelle, très fiers de pouvoir proposer ces projets-là à nos adhérents et également aux bénévoles qui les accompagnent, parce qu'on se rend compte que même pour quelqu'un qui n'a pas de handicap, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, ce type de projet. Donc du coup, ça mobilise beaucoup de gens, handicap ou non. Ça, d'ailleurs, dans nos groupes, à chaque fois, c'est difficile de savoir qui est qui, et c'est ça aussi le but de l'exercice. Donc voilà, je digresse un peu, mais on est très fiers de ces projets-là, et on essaie de pouvoir en proposer des différents chaque année. Donc du coup, pour revenir un peu sur notre projet phare de l'année dernière, Dragon des écrins, celui-ci, on en est d'autant plus fiers puisqu'il est à l'origine, l'idée est à l'origine d'un de nos sportifs, Régis, qui est engagé dans le comité sport adapté depuis même avant moi, et qui pratique du sport très régulièrement, il est en très bonne condition, et c'est lui qui a eu l'idée de ce projet-là. Il faut savoir que Régis, c'est quelqu'un qui travaille le bois, qui travaille très bien le bois et qui a fabriqué en fait des dessous de plat en bois, dans différentes essences de bois qui ont chacune une forme de dragon. Donc, c'est deux formes de dragons qui s'entremêlent pour former un dessous de plat massif, costaud. Et quand on les sépare, qu'on les reforme, elles peuvent former un cœur. Régis, il a toute une symbolique qu'il a pu mettre derrière ses créations. Et il faut savoir, pour faire le lien avec ce projet Dragon des Écrins, c'est que Régis, il est engagé bénévolement au sein du Club Alpin Français. Et du coup, il travaille régulièrement dans les refuges du CAF en montagne pour aider à faire les travaux, à mettre en place, à réparer, etc. Bref, à gérer l'entretien. Du coup, il est très engagé là-dedans avec les équipes et les autres bénévoles du CAF. Et du coup, il souhaitait proposer un projet qui puisse relier tous ces refuges entre eux. Et donc, il a trouvé cette idée de distribuer ces magnifiques créations dans tous les refuges du Champsaur et du Val Godemar, proche de chez nous.
C'est une distribution qui s'est faite de manière groupée. Il n'était pas le seul à y aller. C'était une randonnée itinérante qui s'est passée au mois de juin dernier, de juin 2025.
Voilà, on aurait pu les emmener en hélicoptère et faire la rotation en 2 heures, mais on s'est dit que ce serait trop simple. Alors du coup, on a monté une petite équipe qui a commencé à 20 personnes sur les 2 premières étapes et qui a terminé à 50 personnes sur les 2 derniers jours. En 7 jours, on a pu traverser le Val Godemar en randonnée itinérante, de refuge en refuge, donc avec des belles étapes. C'est pour ça, c'est ce qui explique aussi qu'on a commencé à une 20aine de personnes et qu'on a fini à 50, puisque la première partie était beaucoup plus difficile. On était vraiment sur de la randonnée de haute montagne. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, on a pu passer le pas de l'Olan, etc. Donc des dénivelés importants et des altitudes aussi importantes. Donc on a commencé fort et puis à mi-parcours, on a retrouvé le reste du groupe pour qui la deuxième partie était plus accessible et on en a profité pour finir ensemble. Donc pour citer un peu les refuges, ça parlera aux gens d'ici. On a commencé par le refuge des Souffles, le refuge de Lolland, on est redescendu au refuge du Clos du Xavier Blanc, Géo Bernet, refuge des Souffles et on a fini à Valompierre.
Alors, simplement, avant de rentrer dans le détail sur comment ça s'est passé exactement, on peut saluer Camille qui vient de nous rejoindre. Bonjour Camille, je le rappelle, chargée de communication à la Biocoop Le Grenier. Merci de nous avoir rejoint au pied levé. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et donc, nous parlions justement avec Timothée de comment s'est passé le Dragon des Écrins, enfin ce projet du Dragon des Écrins. Il nous a expliqué un petit peu toutes les étapes. Et donc ça s'est passé l'année dernière, il y a eu une 50aine de personnes qui vous a rejoint, une 20aine de personnes au tout début de la randonnée. C'était une sacrée aventure malgré tout. Vous étiez sur place pendant tout le parcours. Comment est-ce que ça s'est passé cette aventure-là, et notamment tout du long, peut-être pendant les étapes les plus difficiles qui ont dû être un peu challengeantes pour les participantes et participants?
Ouais, bah alors c'était quand même assez exceptionnel ce qu'on en a retenu après l'événement. On a pris quand même une belle leçon d'humilité. Parce qu'il faut savoir qu'il ne me semble pas avoir le souvenir d'avoir entendu quelqu'un se plaindre une seule fois. C'est quand même assez exceptionnel, surtout sur les premières étapes, avec du beau dénivelé, un bel effort physique. Et en fait, nos sportifs, ils étaient aux avant-postes. Enfin, moi, j'ai été impressionné. Pourtant, dans le groupe des encadrants, on est tous sportifs, tous randonneurs. On adore ça. Et là, de les voir, eux, devant, et avancer, être heureux d'être là sans jamais se plaindre, c'était vraiment c'était très, très beau à voir. Chaque soir, au refuge, quand on se posait et qu'on refaisait un peu le fil de la journée, c'était toujours très émouvant de voir ce que ça avait pu apporter à chacun, encadrant, sportif, bénévole, tout confondu.
Est-ce que vous avez eu des retours justement particuliers à nous partager justement sur ce que ça a apporté, notamment aux sportifs qui étaient avec vous?
Alors déjà, il faut savoir que chaque projet qu'on propose, ce qu'on appelle nous un peu nos projets phares, c'est pas des one-shots, c'est des projets qui sont travaillés sur au moins un an et qui s'inscrivent dans la continuité de plusieurs années là maintenant. Donc chaque sportif, il s'entraîne toute l'année, que ce soit physiquement, techniquement, pour pouvoir être au maximum prêt le jour J. Donc du coup, c'est souvent plus un accomplissement que vraiment un but en lui-même. Donc du coup, on est toujours très fiers de les voir réussir et prendre du plaisir dans ce type de projet, parce qu'on revoit toute l'année qui s'est écoulée et tous les efforts qu'ils ont pu fournir pour y arriver. C'est beaucoup de stress avant chaque départ, beaucoup beaucoup de stress pour tout le monde d'ailleurs, mais en particulier pour les sportifs. Et du coup, de les voir prendre confiance en eux au fur et à mesure des jours, c'est toujours hyper satisfaisant pour tout le monde.
Et justement, le sport adapté est peut-être aussi un outil que vous utilisez pour cette prise de confiance pour les sportifs et sportives.
Ouais, bah en fonction de notre public, comme je le disais en début d'émission, on s'occupe du handicap mental et psychique. C'est deux handicaps qui sont totalement différents. Les attentes, les objectifs, les moyens pour accompagner ne sont pas les mêmes. Et là, sur ce type de projet, tout le monde est mélangé. tout le monde est mélangé. On a tous les âges, tous les types de handicap, tous les niveaux physiques. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, nous, de projet en projet, c'est que chacun s'apporte en fonction de ce qu'il a, de son bagage. Chacun va s'apporter mutuellement. Et du coup, à la fin, on a un équilibre qui est super chouette à voir, qui au quotidien est hyper agréable à observer, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve très peu au quotidien, finalement. En règle générale, chacun s'entraîne un peu dans son coin, et même si on développe dans la vie en général, chacun reste un petit peu dans son coin aussi. Et du coup, dans ces projets, de voir tout le monde réuni et partagé ensemble, c'est quand même hyper intéressant.
Pour revenir justement à l'implication de ce sportif Régis qui était à l'origine du projet, vous parliez de ces sculptures en bois qu'il a distribuées tout au long des... qu'il a offert tout au long du parcours. Comment est-ce que ça a été reçu? Comment ça s'est passé pour lui aussi? Peut-être que c'était quelque chose d'important.
Voilà, pour Régis, pareil, c'était un très très gros stress de savoir comment allaient être reçues ses créations. Pour nous aussi, sachant qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Il faut savoir, pour chaque refuge, il a apporté 5 créations, 5 dessous de plat par refuge. Pour vous donner un ordre d'idée, elles font à peu près 30 cm de diamètre pour un bon 5-10 cm d'épaisseur. Donc voilà, c'est dans des essences de bois costauds, donc il fallait se porter tout ça, plus le support, plus un petit carnet explicatif. Et on a aussi Brice, que je peux citer, qui a profité de ce projet pour proposer des créations plutôt en métal de récupération. C'est aussi ce qu'il fait au quotidien. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, ça faisait quelques grammes en plus dans le sac. On espérait ne pas avoir apporté ça pour rien et que ça ait du sens. Et en fait, on a été très 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 agréablement surpris par l'accueil que les différents refuges en ont fait, puisque à chaque remise des lots, des objets, ça a toujours été des moments très émouvants où on sentait les gardiens de refuge et leurs équipes touchés par le geste de Régis et surtout par l'histoire du projet. Je pense que ça a été aussi beaucoup d'émotion pour Régis de recevoir toute cette vague de reconnaissance et cette vague d'amour, mais c'était amplement mérité.
Camille, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, les soirées dans les refuges, il y avait aussi des pratiquants de la rando ou des alpinistes classiques qui venaient. Donc, il devait y avoir des échanges à ce moment-là. Ça a été le moment de pouvoir échanger avec les autres pratiquants de la randonnée, de la montagne habituelle des refuges.
Tout à fait. Ben, c'est vrai que pour les personnes qui nous ont déjà croisés au sport adapté, quand on est un groupe de 20 ou 50, on passe pas inaperçu. Ça, c'est clair que c'est des personnes, et nous, on se laisse prendre au jeu aussi, qui mettent beaucoup d'ambiance, qui sont toujours dans la positivité, dans la joie de vivre, la musique, etc. Et du coup, le fait qu'on partage les refuges avec d'autres gens qui faisaient de la randonnée dans leur coin, bah, ça a permis de créer des échanges très facilement. Justement, par rapport à cette façon naturelle que nos sportifs ont de vivre, tout simplement. Et du coup, ça a attisé un peu la curiosité des randonneurs, et on a pu échanger sur le pourquoi du projet, sur la façon dont c'était fait et la présentation de l'équipe.
Pour continuer sur ce projet, l'aventure s'est passée l'année dernière, mais elle continue un peu indirectement cette année, puisqu'il y a eu un film aussi qui a été réalisé à l'occasion de cette randonnée pendant le mois de juin. Parlez-nous justement de ce film-là qui a été réalisé.
Donc ce film documentaire / reportage, encore une fois, il a toute une histoire, puisqu'il est réalisé et produit par un sportif en situation de handicap mental, Aaron, que je salue, qui est en passe de devenir vidéaste. En tout cas, c'est son projet professionnel, il est accompagné dedans. Il est suivi par Caroline, donc ma collègue, au sein du Pôle France de Paraski de Fonds Adapté. Donc le lien, il s'est fait comme ça, plutôt naturellement. Quand Caroline lui a proposé le projet, il a tout de suite été partant. Il faut savoir que du coup, lui, c'était sa première production majeure, entre guillemets, mais en tout cas un projet sur plusieurs jours avec beaucoup de montage, etc. Du coup, il nous a suivis sur toute la semaine. Donc gros chapeau aussi à Aaron, que ce soit physiquement ou mentalement, puisqu'il nous a suivis toute la semaine avec tout son matériel d'interview, de caméra, etc. Donc du poids en plus dans le sac, il en a porté la plus grande partie. Ça a été un sacré exercice pour lui, puisqu'il devait donc nous suivre et penser en même temps à faire des images, prendre du son, etc. Donc voilà, le film sort prochainement, le 5 mars. La première diffusion est programmée à Cinémathèque de Montagne. Alors pour le moment, ce sera réservé au cercle qui a participé au projet, les sportifs, les intervenants, les partenaires, etc. Mais on va voir pour essayer de le proposer comme on avait pu faire pour notre précédent film, La Traversée des Hautes-Alpes, pour pouvoir le proposer au grand public. On en est très fiers et ces films-là, nous, ils nous permettent justement de mettre en avant tout le travail qui est fait au quotidien. Et du coup, à Ron, voilà, moi, les premières images que j'ai pu voir, ça, c'est très encourageant. J'ai très, très hâte de voir la suite.
Une belle aventure, en tout cas, que vous pourrez revivre donc le 5 mars au moment du visionnage de ce résultat, de ce qu'a fait Aaron pendant Le Dragon des Écrins, de ce qu'il a filmé et de ce qu'il a monté. On arrive à la moitié de cette émission. Avant qu'on passe à la suite, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, un peu rétro pour cette fois-ci. On écoute le titre « I Got the Power » de Snap. Vous êtes dans l'émission Les Locaux du Bio en partenariat avec la Biocoop Le Grenier sur Fréquence Mistral. Nous sommes ensemble avec Timothée Soulier, agent de développement du CDSA 05, le comité départemental de sport adapté des Hautes-Alpes. Timothée, vous nous avez parlé pendant ce début d'émission, vous nous avez rappelé dans un premier temps ce que c'est que le CDSA 05 et puis nous avons parlé aussi du projet Dragon des Écrins. Camille Danel, chargée de communication à la Biocoop Le Grenier, nous a rejoint lien pour continuer cette émission ensemble. Et justement, nous allons pouvoir avoir un peu le point de vue de la Biocoop Le Grenier, Camille, sur ce projet. Et puis, nous allons pouvoir aussi parler des projets à venir pour le CDSA 05. On va pouvoir évoquer en quelques mots également les Jeux Olympiques d'hiver, puisque ça se passe en ce moment même à Milan. Et puis, on terminera évidemment avec une astuce, Camille.
Locaux du bio.
Camille, je me tourne vers toi pour savoir un peu comment ça s'est passé du côté de la Biocoop, puisque vous êtes en lien avec le CDSA 05. Est-ce que vous avez eu une voix au chapitre, en tout cas, est-ce que vous avez participé à cette aventure-là du dragon des écrins, et si oui, comment?
Oui, on nous a sollicité notamment pour du don de produits, tout ce qui servait pour les encas, pour le ravito pendant les randos, donc des céréales, je crois, pour le petit déjeuner et des encas pour des biscuits, des fruits secs pour les encas lors des randonnées. Et on est très content de le faire, c'est la quatrième année qu'on le fait et on est super content de pouvoir participer comme ça parce que pour nous, rendre la montagne accessible à tous et à toutes, c'est hyper important et aussi le faire dans une dimension écologique, donc avec des produits au maximum en vrac, des produits de saison et des produits bons pour les gens, c'est ce qui nous importe le plus. Donc on est très content de participer à ce projet à ce niveau-là.
Peut-être aussi rappeler l'évidence, mais l'alimentation et le sport sont deux choses très importantes pour la santé. Peut-être que c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez respectivement, Camille et Timothée.
Ouais, tout à fait. Nous, on a pas mal de projets à l'année avec différents partenaires pour lier les aspects nutrition et activité physique, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, ce partenaire qu'on a avec la Biocoop, c'est clair que c'est un atout énorme pour nous. Et maintenant, les sportifs ont l'habitude, en plus, de consommer ces produits. Et en dehors des projets où, effectivement, on reçoit une dotation de la Biocoop, en dehors de ces projets-là, ils ont pris l'habitude maintenant de consommer, plutôt que de prendre des produits moins intéressants nutritivement, de consommer des graines, des barres, etc. Au moment où ils font du sport. Et comme ils en font très régulièrement, c'est une super habitude qu'on leur a permis d'avoir aujourd'hui. Effectivement, c'est les détails qui permettent de pouvoir aller au bout de ces projets-là. Et tous ces encas que nous a fourni la Biocoop, ça a clairement aidé à pouvoir aller au bout de ces 7 jours. Très engagé.
Camille, aussi au sein de la Biocoop, j'imagine que vous avez des engagements. Tu parlais de l'envie de rendre la montagne accessible à toutes et tous. Est-ce que c'est quelque chose que vous portez au quotidien à la Biocoop aussi ?
Eh bien oui, on est en partenariat avec plusieurs associations qui œuvrent dans ce sens, donc soit du côté écologique, soit du côté plus accessibilité avec de la mobilité douce. Donc il y a le CDSA 05, il y a également la SAPN, donc la Société Alpine de Protection de la Nature, qui organise aussi pas mal de conférences et autres pour rendre justement la biodiversité notamment accessible à toutes et tous pour mieux comprendre l'environnement de la montagne. Et on travaille aussi avec l'association Idées de Demain qui organise notamment un salon de la biodiversité qui a lieu en mars à Chorges et qui travaille aussi sur ces dimensions-là de rendre accessibles les beautés de la nature en montagne et comment mieux la protéger.
Des projets un petit peu tout au long de l'année. Peut-être qu'on peut revenir sur les projets justement du CDSA 05. On le disait, il y en a un phare par an. On parlait du projet Dragon des Écrins. Quel va être le projet phare de 2026, Timothée ?
C'est marrant parce que d'année en année, c'est la question qui commence à revenir régulièrement. On commence à avoir de la pression sur les épaules. Non, blague à part, cette année, on est sur un projet qui est moins axé montagne. Puisque c'est vrai que sur tous nos derniers projets, on a été sur des choses quand même engagées physiquement et beaucoup en montagne. Et il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de sportifs qui aiment pratiquer des activités plus culturelles, artistiques. Donc cette année, on a pris le parti de tout miser sur le ballet jogging, un projet réalisé en collaboration avec La Passerelle et le chorégraphe réalisateur Pierre Rigal. Donc ça aura lieu en ouverture du festival Tous dehors à Gap. Et le ballet jogging, concrètement, ça consiste en une chorégraphie en jogging, donc en courant, avec entre 100 et 200 personnes dans un stade. Et le fait de voir ça depuis les tribunes, où les gens courent, se croisent, bougent, à grande échelle, ça crée une très belle image. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube si vous êtes curieux. Donc tous nos sportifs sont en train de se préparer régulièrement toutes les semaines là, pour cet événement.
Donc le ballet jogging, c'est une discipline qui existe, qui est très peu connue. Je vous avoue que je ne connaissais pas avant d'apprendre.
Alors je ne sais pas si c'est une discipline à part entière. J'avoue que je ne suis pas sûr. Par contre, pour l'instant, c'est un mix entre deux disciplines.
Une performance artistique.
On peut l'appeler plutôt comme une performance artistique, tout à fait. Et pourquoi pas créer des vocations ou des projets par la suite. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
C'est le même chorégraphe qui l'avait fait pour l'ouverture des JO, les JO de Paris, et c'était pour l'étape à Marseille.
Donc c'est intéressant de savoir que les choses se recroisent. On va pouvoir venir dans un instant aussi aux JO, justement. C'est un sujet qu'on voulait aborder. Juste une dernière chose sur ce ballet jogging. Comment ça s'est passé, l'organisation? Vous disiez qu'il va y avoir 200 personnes sur scène. Comment est-ce qu'on organise quelque chose avec 200 personnes?
Ouais, donc cette année, on n'est pas tout seul dans l'organisation. C'est un projet qui est à la base proposé par la Passerelle. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais nous, on a fait appel au comité départemental de sport adapté pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, puisque l'idée de base de ce ballet jogging proposé par Pierre Rigal, c'est de pouvoir pratiquer tous ensemble en fonction des capacités de chacun. Donc nous, on a proposé entre 30 et 50 sportifs de participer. Donc a priori, sur 200 personnes, un quart, c'est quand même déjà un pourcentage important pour pouvoir participer à ce projet-là. Parce qu'effectivement, sur le public ordinaire, de mémoire, il me semble qu'ils ont 5 entraînements avant la représentation. Nous, effectivement, 5 entraînements sur un aussi grand nombre de personnes et sur une durée de spectacle aux alentours d'une heure, 5 entraînements, ça aurait été juste. Donc du coup, en partenariat avec Delphine, une prof de danse au sport adapté, on a mis en place en amont des créneaux pour que les sportifs puissent s'entraîner en plus petits groupes, de manière un petit peu plus individuelle et plus accompagnée, pour pouvoir préparer ces entraînements en commun qui se feront avec toute la troupe. Donc il faut savoir aussi que ce spectacle, il est accessible dans le sens où si certains sportifs n'ont pas la capacité de pouvoir faire l'heure complète, il y a des options qui leur sont proposées pour pouvoir rentrer en soit commencer le début et puis hop, partir à un moment donné, soit à l'inverse, intégrer la chorégraphie à un moment plus avancé. Donc c'est pas du cas par cas, mais presque.
Mais c'est quand même engageant physiquement, parce que j'avais vu qu'il faut au moins savoir courir de manière régulière pendant au moins 20 minutes, ce qui est pas mal pour des sportifs, quoi. Déjà, il faut savoir, tous les coureurs qui vont y participer, en plus de mémoriser une chorégraphie, ils devront courir au moins 20 minutes.
Et ouais, c'est ça qui est énorme. C'est avant tout une course à pied, plus que de la danse. À la base, ça reste quand même de la course à pied. Et nous, sur les sportifs là, qui sont engagés cette année, ça fait 2 ans que... Alors peut-être plus, mais en tout cas 2 ans de manière régulière qu'on participe à des crosses, des trails, des courses sur route dans le département et même ailleurs. Et en fait, ils y ont pris goût, ils adorent ça. Donc du coup, nous, quand on a vu ce projet-là, on s'est dit, bah, let's go, c'est un moment aussi de pouvoir concrétiser un petit peu tout ce qui est fait depuis des années. Ils en ont la capacité. Maintenant, là, nous, ça va être plus la gestion du tout autour, du monde, de la place, de l'enchaînement. Mais physiquement, j'ai pas de doute.
Ça, on a compris, y compris justement avec le projet Dragon des écrans sur lequel on a passé un peu de temps, que physiquement, il y a de la performance et ça suit bien. Peut-être qu'on peut, en parlant justement de performance, dire un mot des JO d'hiver qui ont lieu pile en ce moment, justement, à Milan. Timothée, j'aimerais savoir votre avis, l'avis du CDSA sur cet événement en particulier des JO d'hiver.
Nous, on a pu voir l'effet des JO 2024 qui sont déroulés à Paris sur, très concrètement, sur la vie associative et sportive en France. Il faut être quand même aussi très terre à terre. Les JO, pour les associations sportives et pour d'autres, c'est quand même un levier de développement majeur, puisque on a des enveloppes qui sont fléchées sur les Olympiades autour de la thématique du sport, de la performance, etc. Donc en tant qu'asso sportive et en plus portée sur le handicap, nous, ça nous aide beaucoup. D'ailleurs, pour être très honnête, on l'a senti aussi à la fin des JO 2024, hein, que c'était déjà moins fléché. Donc du coup, on aimerait pouvoir continuer de profiter de cette lancée là, des JO 2030 qui arrive en France, d'autant plus dans les Alpes, pour pouvoir continuer de développer l'accès au sport pour tout le monde. Qu'on parle de public ordinaire ou de public en situation de handicap, quand on parle développement infrastructure, c'est global, ça marche pour tout le monde. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Après, très concrètement, pour nos sportifs en tant que tels, pour qu'ils puissent participer aux JO paralympiques, donc on a pas mal abordé le thème des Jeux d'été où ils étaient sous-représentés. Les JO d'hiver, c'est d'autant plus simple, ils ne sont pas du tout représentés. Il n'y a aucun sportif du sport adapté à l'heure actuelle qui participe aux Jeux d'hiver. Donc du coup, nous, en ce moment, on a un très très gros travail de représentation, d'échange avec les différents acteurs du sport et autres pour pouvoir permettre de les accueillir sur les Jeux 2030. Donc on a Marc Truffaut, là, le président de la Fédération française du sport adapté, qui fait un gros travail à l'échelle nationale. Et nous, là, en tant que comité départemental, on essaie d'agir localement pour pouvoir faire notre part sur cette accessibilité des sportifs. Donc tout reste à faire, mais en tout cas, il y a des choses qui commencent à avancer.
Il y a des choses qui commencent à avancer. Est-ce que le département, justement, puisque c'est dans les Hautes-Alpes que vont se passer les JO 2030, a priori, est-ce que le département vous suit dans ces initiatives?
Ben, c'est en très bonne voie, puisque c'est d'actualité. La semaine dernière, le département là, vient de voter à l'unanimité une motion pour pouvoir accompagner le sport adapté aux JO. En tout cas, dans l'espoir qu'ils puissent participer aux Jeux paralympiques. C'est très concret. Il faut savoir que là, actuellement, sur les Jeux d'hiver, on a deux sportifs haut alpin en situation de handicap qui participent, qui sont intégrés en équipe de France sport adapté, donc de ski de fond en l'occurrence. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas participer aux Jeux paralympiques alors qu'ils s'entraînent comme des athlètes de haut niveau. Ils sont considérés comme des athlètes de haut niveau. Ils sont d'ailleurs actuellement aux championnats du monde au Kazakhstan. Mais voilà, pour montrer que la dernière étape pour eux, la dernière compétition auxquelles ils n'ont pas accès pour l'instant, c'est les Jeux paralympiques. Et donc le département là, s'est engagé à les accompagner, à les soutenir dans cet objectif-là. Si vous voulez agir à votre échelle, c'est possible. Il y a une pétition qui existe, qui s'appelle Jeux 2030 inclusif. Et cette pétition, elle a été signée par actuellement 4000 personnes et elle vise justement à pouvoir permettre l'accès à ces personnes-là aux Jeux paralympiques.
Est-ce que la décision finale de permettre cet accès revient à l'organisation des JO? À qui revient cette décision-là?
Oui, tout à fait. C'est le comité... Comité international des JO qui aura le fin mot de l'histoire. On va très, très vite être fixé puisque on devrait être au courant de tout ça à la fin de l'Olympiade 2026 des Jeux d'hiver, donc très prochainement, a priori après les Jeux paralympiques qui se dérouleront en mars.
Les locaux du bio.
On a bien échangé sur ce qui se passe au CDSA, sur tous les projets passés et à venir du CDSA 05. Camille, pour conclure cette émission, est-ce que tu as une petite astuce à nous partager?
Là, nous sommes en février. Il y a encore beaucoup, beaucoup de neige qui tombe et c'est tant mieux. Mais le printemps va bientôt pointer le bout de son nez. Et justement, nous, dans nos forêts, notamment les forêts de bouleaux, la sève va commencer à monter en début mars. Et ça va être le moment pour les producteurs de sève de bouleaux de récupérer une partie de cette sève et qui va nous permettre à nous, consommateurs, de pouvoir faire une cure de sève de bouleaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette cure. Elle est déjà 100% naturelle et locale, puisque la sève fraîche provient des forêts, chez nous en tout cas, de la sève de bouleaux vendue au grenier, elle provient soit du Champsaur, soit des forêts de Lubaye. Et cette sève qui est récoltée à la main par des producteurs est hyper bonne pour la santé. Elle est déjà détoxifiante et elle est aussi reminéralisante. Qu'il faut en consommer pendant 3 semaines un verre par jour. Et bah, ça permet déjà de se rebooster et d'être bien déjà pour le printemps. Donc ça commence début mars.
Donc d'être à nouveau en forme pour le printemps, une cure qui pour ma part était méconnue, je ne savais pas qu'on pouvait consommer de la sève de bouleau, je l'apprends aujourd'hui. Chers éditrices et éditeurs, on arrive à la fin de cette émission des locaux du bio. Peut-être qu'on peut laisser le mot de la fin à Timothée si vous souhaitez passer un dernier mot à nos auditrices et auditeurs pour qu'ils comprennent l'importance du sport adapté, par exemple, ou si vous avez autre chose à leur faire passer.
Non, bah, un grand merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant de pouvoir parler de notre travail dans les médias. Un grand merci aussi à la Biocoop pour l'accompagnement. On espère que ça va continuer sur nos prochains défis sportifs. On a plein d'idées. Puis un grand bonjour et je souhaite une bonne fin de saison à tous nos sportifs, surtout qui continuent de bien s'entraîner. Là, pour la plupart, ils sont concentrés sur la saison hivernale de ski alpin, ski de fond. Et on se retrouve, nous, l'été pour d'autres beaux projets en extérieur.
Et aussi pour le ballet jogging à l'ouverture du festival Touste dehors. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver vos actualités et nouvelles du CDSA 05 ?
Alors, on a le site internet du CDSA05.fr et autrement, pour les actualités plus quotidiennes, je vous invite à aller voir notre Facebook CDSA Hautes-Alpes où on partage photos et vidéos de tout ce qu'on peut faire au cours de l'année.
Merci beaucoup. Je le rappelle, donc Timothée Soulier, agent de développement pour le CDSA 05, le comité départemental de sport adapté des Hautes-Alpes. Merci aussi Camille Danel, chargée de communication à la Biocoop Le Grenier à Gap. Camille, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Locaux du Bio. Timothée, encore merci d'être venu.
Merci à vous.
À bientôt.